Au milieu d'eux, le plus noir et le plus gros joyau de ce sombre écrin, voici enfin Jacques Rochet, le seul homme, dit-on, qu'ait jamais craint le cuistot des mers. Il se prélasse, allongé dans un vulgaire chariot, tiré et poussé par ses hommes, qui l'aiguillonnent de temps à autre avec son terrible harpon. Ce redoutable individu traite ses comparses comme des chiens, et comme des chiens, ils lui obéissent. Il a le teint de bistre d'un cadavre enfumé, et frise ses cheveux en longues boucles, qui de loin ressemblent à des chandelles noires, et donnent un air sinistre à sa noble physionomie. Ses yeux sont teintés d'un bleu de myosotis et de profonde mélancolie, sauf quand il vous plonge son crochet dans le corps et que s'allument au fond de ses prunelles deux horribles lueurs rouges. D'allure racée, un air de grand seigneur est resté collé à sa personne. Air dont il ne se départit jamais, même pour vous crocheter la panse de sa griffe. Et je me suis laissé dire que ses talents de conteur sont fort prisés. D'autant plus courtois que ses intentions sont sinistres, ce qui est une preuve authentique de savoir-vivre. Il soigne sa diction lors même qu'il profère des jurons. Bref, la distinction de ses manières témoigne à l'évidence qu'il n'est pas sorti du même tonneau que le reste de l'équipage. D'un courage indomptable, la seule chose qui l'effarouche est la vue de son propre sang, qui est épais et d'une couleur insolite. Dans sa façon de se vêtir, il singe la mode du temps de Charles II. Quelqu'un ayant fait remarquer, alors qu'il débutait dans sa carrière, qu'il ressemblait étrangement aux infortunés Stuarts. À la bouche, il a un ingénieux fume-cigare de sa fabrication qui lui permet de fumer deux cigares à la fois. Mais sans conteste, la partie la plus rébarbative de sa personne, c'est son crochet de fer. Et maintenant, pour illustrer les méthodes de cet homme, tuons un pirate. Œil de bœuf fera l'affaire. Tandis que les pirates passent, Œil de bœuf bouscule malencontreusement son capitaine et froisse sa fraise de dentelle. Le crochet part comme une flèche, bruit de déchirure, cri, un seul. Du pied, on écarte le corps et les pirates poursuivent leur chemin. Crochet n'a pas même ôté les cigares de sa bouche. Tel est le terrible adversaire que doit affronter Peter Pan. Lequel des deux sera le vainqueur ? Dans la foulée des pirates, suivant à pas de loup le sentier de la guerre invisible aux yeux inexpérimentés, viennent les peaux rouges, chacun ouvrant l'œil. Ils ont des tomahawks et des couteaux et leurs corps nus luisent de peinture et d'huile. À leur ceinture pendent des scalpes, aussi bien de garçons que de pirates, car ceux-là sont la tribu des Picanini, qu'il ne faut pas confondre avec les Delaware ou les Hurons au cœur plus tendre. À l'avant-garde et à quatre pattes marchent grandes, grosses, petites panthères, guerriers détenteurs de tant de scalpes que dans sa posture présente, il l'empêche presque d'avancer. Fermant la marche, poste périlleux entre tous, se dresse fièrement Lys Tigrée, princesse de par sa propre volonté, une vraie princesse, la Diane des Dianes brunes, et la belle des Picanini, tour à tour coquette, glaciale et ardente. Il n'est pas un guerrier qui ne souhaite épouser cette rebelle, mais elle évite l'autel à coups de hachette. Observez qu'il foule les brindilles sèches sans faire le moindre bruit. On entend seulement leur forte respiration. Le fait est qu'ils sont un peu gras après leur copieux festin, mais avec le temps, ils élimineront cette graisse superflue qui, pour l'instant, est le seul danger qui les menace. Les peaux rouges disparaissent comme ils sont venus, telles des ombres, et bientôt leur succèdent les bêtes sauvages, en une longue procession bigarrée. Lions, tigres, ours, et les innombrables choses sauvages de moindre taille qui fuient à leur approche. Car chaque espèce d'animaux, et plus particulièrement tous les mangeurs d'hommes, vivent, jouent contre mâchoire sur cette île bienheureuse. Ils tirent la langue, ils ont faim cette nuit. Fermant le banc, vient enfin le tout dernier personnage, le crocodile géant. Tout à l'heure, nous saurons qui le pourchasse. Le crocodile passe, mais bientôt les garçons réapparaissent, car le défilé peut continuer indéfiniment, à moins qu'une des équipes s'arrête ou change de vitesse. Et alors, c'est la mêlée. Tous ont le regard tendu en avant. Mais aucun ne soupçonne que le danger pourrait surgir par derrière, ce qui prouve combien cette île est bien réelle. Les premiers à sortir de ce cercle mouvant furent les garçons. Ils s'affalèrent dans l'herbe près de leur demeure souterraine. « Comme j'aimerais que Peter soit de retour, » dirent-ils nerveusement, en dépit du fait qu'en hauteur et encore plus en largeur, elle surpassait leur capitaine. « Je suis le seul à ne pas avoir peur des pirates, » dit la plume, de ce ton qui nuisait tant à sa popularité. Il dut entendre au loin quelques bruits alarmants, car il ajouta à la hâte, « Mais je souhaite que Peter revienne vite et nous dise s'il en a appris davantage au sujet de Cendrillon. » Ils parlèrent de Cendrillon. La guigne était persuadée que sa mère avait dû beaucoup lui ressembler. Ce n'est qu'en l'absence de Peter qu'il se risquait à parler de mère, le capitaine ayant banni de la conversation ce sujet, selon lui, stupide. Tout ce que je me rappelle de ma mère, raconta Bonzig, c'est qu'elle disait souvent à mon père « Oh, si je pouvais avoir un carnet de chèques à moi !» Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais tant en offrir un à ma mère. » Tout en bavardant, ils perçurent un bruit dans le lointain. Vous ou moi, n'appartenant pas à la faune de ces bois, n'aurions rien entendu, mais eux reconnurent aussitôt le chant sinistre des écumeurs de la mer.
Le pavillon à tête de mort, la belle vie, une corde en chambre, et l'on va boire la grande tasse.
En un clin d'œil, les garçons. Mais où sont-ils donc? Ils ne sont plus là. Des lapins n'auraient pas détalé plus vite.